Vous êtes avec SBS French.
Bonjour et bienvenue dans Europa Voice. Europa Voice avec Nathanaël Bloch une nouvelle fois. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
On va parler du libre-échange et des accords de libre-échange avec l'Europe. On en est où? Ça fait un petit moment qu'on en parle. Je sais pas à quel épisode d'Europa Voice on en a parlé, mais ça fait un petit moment. C'est quoi le statut cet accord de libre-échange en ce moment?
Alors, it's complicated.
J'aime bien la pause. Alors,
it's complicated. On dirait sur Facebook, l'Union européenne et l'Australie sont engagées dans des discussions. On peut parler encore d'accord, mais dans des discussions depuis la fin des années 2000 pour faciliter les échanges et le libre échange entre les deux pays. En 2018, officiellement, les négociations ont été lancées. D'ailleurs, on avait, c'est à ce moment-là après que le podcast Europa Voice s'est lancé, qu'on avait commencé d'ailleurs à traiter de ces accords.
Avec la visite d'Emmanuel Macron en Australie.
Avec notamment cette visite d'Emmanuel Macron
en Australie. J'ai même posé une question sur le terrain du Premier ministre australien. Enfin, c'est toute une autre anecdote sur cet libre-échange d'ailleurs.
Et depuis 2018, en fait, c'est effectivement compliqué. On en a une quinzaine de ce qu'on appelle de rounds de négociations entre l'Union européenne et l'Australie. Alors, ce qui se passe, juste pour nos auditeurs d'Europa Voice et d'SBS, c'est qu'à chaque fois, en fait, on doit se mettre d'accord. Un accord de libre-échange, c'est un énorme tableau Excel. Et dans ce tableau Excel, on met un petit peu tout ce qui fera partie de cet accord de libre-échange et tout ce qui ne fera pas partie.
Donc, il y a du vert et il y a du rouge.
Il y a du vert, il y a du rouge et il y a du orange. Et en fait, c'est sur le orange que c'est le plus compliqué. Exemple, et ça peut être des choses qui peuvent paraître très anecdotiques, mais c'est sur les appellations d'origine contrôlées.
C'est énorme, c'est pas anecdotique. Un camembert, c'est un camembert.
Un camembert, c'est un camembert. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va être sur des détails, vous avez raison, hein, Christophe, aussi petits que de la provenance géographique. Qu'est-ce qu'on appelle champagne, qu'est-ce qu'on appelle mousseux, qu'est-ce qu'on peut appeler feta, qu'est-ce qu'on peut appeler camembert, etc. Et en fait, ces rounds ont...
Dans une culture australienne qui n'est pas du tout comme ça. C'est ça la chose.
On vous parle champagne alors qu'on met un mauvais sparkling à 10 dollars. Bon,
c'est un autre sujet.
Et donc, en fait, ces accords étaient un petit peu au point mort. Et puis, il faut le rappeler aussi pour nos éditeurs d'Europa Voice, d'SBS, l'épisode des sous-marins avait effectivement mis un coup d'arrêt supplémentaire à ces discussions qui avaient déjà du mal à aboutir. Et puis, les changements aussi de... s'il y a une stabilité, ça il faut le reconnaître au niveau de l'Union européenne, puisque c'est le deuxième mandat de Van der Leyen, les mandats australiens sont beaucoup plus courts, c'est-à-dire qu'il y a 3 ans de cela, c'était pas Albanese qui était le Premier ministre, il y a eu plusieurs Premiers ministres de partis d'ailleurs opposés. Et donc on était un petit peu à un point mort. Et puis là, Albanese, face aussi, il y a un petit peu d'opportunisme de la part du Premier ministre australien, face aux difficultés de AUKUS, hein, donc des contrats de défense Australie, Angleterre. États-Unis sur ses sous-marins et sur la défense face à les difficultés, il fait un petit peu marche arrière Albanese, puis il revient un petit peu voir les partenaires européens, il re-rentre par la porte de la défense, il prend aussi prétexte évidemment de sa première visite papale pour aller voir Van der Leyen et donc pour d'une certaine façon relancer les discussions de ces accords de libre-échange par la lorgnette d'un partenariat en matière de sécurité et de défense.
Au moment où l'Europe elle-même se pose elle-même ces questions de défense au sein de l'Union européenne.
Au même moment, Christophe, vous avez tout à fait raison, où l'Europe, sur les questions d'indépendance stratégique, sur les questions de l'indépendance et de l'autonomie de défense européenne, elle sait, l'Europe aussi, que le parapluie américain est en train de se refermer s'il n'est pas déjà refermé. Donc, il y a une espèce d'opportunisme de circonstance de la part des deux, mais qui finalement est le bienvenu. Et donc, ces négociations d'un accord de libre-échange semblent remises sur le tapis. Et donc, on n'est pas à l'abri de conclure un accord dans les prochains mois entre l'Union européenne et l'Australie par rapport à ces accords de libre-échange.
On sort le mousseux ou on sort le champagne au moment où ça se fait, toi et moi?
Alors, je pense qu'on sortira les deux, on fera une dégustation à l'aveugle.
Si on revient juste sur la visite d'Anthony Albanese et la rencontre avec Van der Leyen, à quel point c'est important cette rencontre?
C'est très important parce qu'il faut aussi le préciser pour nos auditeurs d'Europa Voice et d'SBS, c'est qu'on a parlé d'ailleurs dans la première partie de cette Europa Voice de l'espace Schengen et donc de la libre circulation des biens, des matériaux, des personnes. Un pays comme l'Australie doit conclure des accords de libre-échange au cas par cas. Ou, à l'inversement, si on prend l'Union européenne, doit conclure des accords au cas par cas. Et donc, il n'y a pas que l'Australie, hein, d'ailleurs, qui est concernée.
On l'a vu, il y a le Canada aussi.
Il y a le Canada, il y a l'Inde. Il y a eu toutes les problématiques autour du Mercosur, avec notamment les questions agricoles. Donc, c'est extrêmement important, en fait, ces accords de libre-échange. Et puis, si on se place du côté australien, il ne faut pas l'oublier, hein, l'Australie, qui est un pays d'un peu plus de 25 millions d'habitants, si je ne m'abuse, peut potentiellement avoir accès à un marché de plus de, enfin, d'à peu près 500 millions de consommateurs. Donc, c'est un marché qui est 20 fois plus grand que le marché australien. Donc, vous imaginez bien, pour les producteurs australiens de certains produits spécifiques australiens, c'est une opportunité incroyable.
Et surtout, là, il faut le jeter aussi encore une fois dans la mare, mais Donald Trump et ses tarifs accélèrent aussi le besoin d'aller vendre du vin australien en Italie, par exemple, etc., etc., etc.
Et bien, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, on en a parlé dans un épisode précédent d'Europa Voice. L'isolationnisme américain est peut-être le meilleur remède pour que l'Union européenne reconsidère certaines de ses stratégies, notamment en termes d'autonomie de défense, notamment en termes de commerce et notamment en termes d'affaires étrangères. Donc, dans un mal, ou en tout cas dans une période qui est compliquée pour l'Union européenne, parce qu'en face, elle a un partenaire américain qui n'est plus forcément aligné avec la relation historique et Lafayette et son legs, c'est pour l'Europe une opportunité d'aller voir de l'autre côté. Et puis, ne l'oublions pas, on a parlé de votre question à Emmanuel Macron en 2018. Une des premières initiatives de géopolitique mondiale d'Emmanuel Macron, c'est l'axe, la stratégie Indo-Pacifique. C'est faire des nouvelles routes de la soie, des nouvelles routes de commerce, des nouvelles routes diplomatiques de Paris à Nouméa, en évitant la Chine, en passant par l'Inde et l'Australie.
Ah, c'était discuté en 2018.
C'était discuté,
comme
et donc,
c'était hier.
Et donc tout ça, ça s'imbrique, tout ça est lié. Et donc, c'est effectivement pour Emmanuel Macron aussi une certaine façon de close the loop, comme on dit en anglais, et puis de revenir sur ce qui est pour le coup objectivisé. Une des réussites d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir remis l'Indo-Pacifique à la place que cette région mérite, avec tout ce que ça a d'opportunités stratégiques, de défense, de sécurité pour la stabilité, pas seulement de la région, mais pour la stabilité du monde.
Et c'est intéressant, juste pour revenir sur les tarifs et l'accord de libre-échange, on pourrait même presque rajouter une ligne sur le CV de Donald Trump comme un des grands fondateurs de l'Europe, puisqu'il a aidé avec son isolationnisme à peut-être sortir l'Europe d'une certaine situation et d'augmenter les accords de libre-échange avec plein d'autres pays où c'était un petit peu compliqué, comme l'Australie par exemple.
Exactement, c'est donc... Encore une fois, c'est un mal pour un bien. On va voir
indépendamment de son souhait. Hein,
mais... Voilà, non, mais on va voir aussi ce que l'Europe va être capable de faire pour exister face aux deux géants américains et chinois et mettre en place ces accords de libre-échange. Encore une fois, hein, ce qui a stoppé ces accords de libre-échange, c'est à la fois une non-entente sur tout un tas de sujets, mais c'est aussi en toile de fond cette histoire de sous-marin. Et donc, voilà, on est passé à autre chose. Le coup de poignard dans le dos, pour citer Jean-Yves Le Drian, si je ne m'abuse,
oui,
à l'époque.
Tout à fait, ouais.
Voilà, la plaie est effacée, c'est cautérisé et la France et l'Australie, l'Union européenne et l'Australie peuvent avancer.
Effacée, je ne sais pas, mais cautérisée, c'est sûr. Merci Nathanaël.
Merci Christophe.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.